Madame Julien, le XVIIe siècle apporte beaucoup de surprises au Saint-Antoninois. Quelle musique avez-vous choisie pour illustrer cette période?
Ce sera aujourd'hui de la musique de cour, de Michel Richard de Lalande, musicien de Louis XIV. Et plus précisément, des extraits d'une suite intitulée « Symphonie pour les soupers du roi ». Ici, le mot « symphonie » n'a pas du tout le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Selon les œuvres, l'orchestre comportera cordes, clavecins, hautbois et bassons, trompettes et timbales. Tour à tour, nous entendrons des fragments de l'air grave de l'amour fléchi par la constance, de la symphonie du Tédéum, du premier air du concert de trompettes qui se rattache au précédent, enfin, d'une sarabande. Il faut remarquer que la sarabande, en France à cette époque, est une danse noble, toujours lente et grave, prenante, admirable.
Monsieur Julien, en parcourant les archives de Saint-Antonin, nous en arrivons au XVIIe siècle. Un siècle qui a bien mal commencé pour nos ancêtres, avec les guerres de religion, le siège de 1622, et la terrible peste de 1629.
Oui, on a sans doute remarqué, tout au long de cette chronique, que les grands moments de l'histoire saint-antoninoise sont faits d'événements tragiques. Guerre civile, guerre étrangère, sans oublier les fléaux naturels. Ce sont, hélas, ces seuls événements tragiques qui marquent dans la mémoire des hommes. Il jalonne l'histoire. Et si notre histoire locale est aussi riche, justement, c'est sans doute parce que nos ancêtres ont connu trop souvent des années douloureuses. S'il en était autrement, nos archives communales seraient bien moins fournies qu'elles ne le sont, tant il est vrai que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Après les terribles épreuves de la peste de 1629-1630, succédant au malheureux lendemain du siège de 1622, notre communauté se trouvait dans la plus grande détresse, comme on peut l'imaginer sans peine. La population était décimée aussi bien dans la ville que dans les campagnes. Les campagnes, elles, étaient ravagées, désolées. Les terres et les maisons partout étaient à l'abandon ou en ruine. Chacun alors, on le comprend, devait aspirer à retrouver, avec la paix revenue et l'épidémie disparue, le bon temps d'autrefois. Mais les Saint-Antoninois ne retrouveront jamais plus le temps d'autrefois, cette époque lointaine où notre ville était industrieuse, prospère, riche et surtout indépendante.
Thank you.
l'histoire de notre ville nous a appris que chaque grande catastrophe est suivie d'une période de progrès et de prospérité. Et vous semblez dire, M. Julien, qu'au XVIIe siècle, Saint-Antonin a évolué autrement.
Et pour une raison bien précise, c'est que la politique de grandeur inaugurée par Richelieu et poursuivie par Mazarin, et qui s'exercera dans la triple direction bien connue des écoliers, du moins autrefois, soumission des protestants, abaissement des grands, lutte contre la maison d'Autriche, cette politique de grandeur, donc, atteindra son apogée avec Louis XIV, le monarque de droit divin, le roi soleil, qui règne sur tout et sur tous. On a vu comment, chez nous, les protestants avaient été cruellement soumis. Et le 19 août 1629, en pleine épidémie de peste, alors qu'il y aurait eu bien autre chose à faire ici, le premier consul de Cadiès, accompagné du trésorier Palotte, s'en vont s'agenouiller devant son éminence, le cardinal de Richelieu, qui faisait son entrée triomphale dans Montauban, aussi soumise. Il n'y avait pas de grand seigneur à Saint-Antonin, mais la décapitation du duc de Montmorency en 1632, que commémore une plaque scellée dans la cour du Capitole à Toulouse, a tracé sûrement la ligne de conduite aux quelques petits hauts bureaux de notre région, dont le loyalisme n'a jamais faibli, même au temps de la Fronde. Pour mieux assurer la toute-puissance du roi sur tout le territoire, Richelieu décide l'organisation administrative caractéristique de ce qu'on appelle l'Ancien Régime par la création, en 1635, des intendants. Jusque-là, nous appartenions à la province de Guyenne, dont le gouverneur était installé à Bordeaux. C'était un grand seigneur de très haute noblesse, comme le duc d'Épernon, que l'on ne voyait jamais et qui ne s'intéressait guère ni ne s'immisçait pas, surtout dans les affaires communales. En 1635, la Guyenne est divisée en deux généralités, deux demi-provinces, si vous voulez, la généralité de Bordeaux et la généralité de Montauban, à laquelle nous sommes rattachés comme tout le Rouergue et tout le Quercy. À la tête de cette généralité, un intendant. C'est un fonctionnaire royal que l'on change souvent, mais qui a la haute main sur, entendez bien, les finances de la généralité, la justice de la généralité et la police. C'est par les intendants, a-t-on pu dire, que la royauté a pu accomplir tout le bien, et hélas, tout le mal qui s'est fait dans notre pays pendant 150 ans de monarchie absolue. Thank you. Monseigneur l'intendant, Monseigneur, on ne le désigne qu'ainsi, que ce soit en privé ou en public. Monseigneur l'intendant intervient à tout propos et à tout moment dans l'administration de la cité. Et d'abord, dans la nomination des consuls, par des lettres polies, que l'on considère comme des ordres. Il suggère la nomination de tel ou de tel au poste de premier consul. Et c'est ainsi que, progressivement, sont installés au poste de premier consul des personnages. Ces personnages dont le seul mérite semble avoir été un titre de noblesse récemment reçu ou récemment acheté ou récemment conquis à la faveur d'un mariage heureux. C'était la chose nouvelle dans une cité qui avait été depuis des siècles, depuis la fin des vicomtes, rappelez-vous, administrée presque uniquement par des marchands, des artisans et des gens de robe. À partir de 1647, on relève ainsi les noms de Jean de Borderie, Pierre de Villeneuve, Bernard de Bénavent, le sieur de La Roque, Barthélemy de Florac, sans parler des La Capelle-Casse et des deux Saint-Michel de Marsat de l'Estang, ces deux dernières familles de noblesse quand même plus sûres et plus anciennes.
Monsieur Julien, à la concertation qu'avait instaurée la République protestante, se substitue donc l'autorité de l'intendant. Cet intendant était-il directement sous les ordres du roi ou avait-il des initiatives personnelles pour influencer la vie communale?
C'était un fonctionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout à fait soumis aux ordres du roi qui appliquait la politique royale. C'était le mandataire du roi. Cela ne l'empêchait pas, suivant ses capacités intellectuelles, de prendre des initiatives personnelles, mais elle l'était toujours dans le sens de la politique de centralisation à outrance voulue par le roi. Il y a une différence énorme entre l'intendant, qui n'était d'ailleurs pas de haute noblesse, lui, hein. Il y avait une grosse différence entre l'intendant et les sénéchaux d'autrefois. Autrefois, nous avions un chef, c'était le sénéchal. Mais c'était souvent un noble du pays et qui n'avait pas pour mission d'appliquer la politique du roi. Pas du tout. Contrevenant justement aux coutumes et aux habitudes séculaires, l'intendant se mêle de tout, comme je l'ai dit, et il décide même, et ça c'est une date fondamentale, le 27 octobre 1666, c'est-à-dire 4 jours avant l'élection consulaire traditionnelle de la Toussaint, que l'élection consulaire aura lieu désormais le 1er janvier. C'est lui qui le décide, et non plus le 31 octobre. Et le conseil qui se réunit le 31, prenant connaissance de cette lettre de Monseigneur l'intendant, que croyez-vous qu'il fasse? Va-t-il alléguer les coutumes de la ville? Non. Il obéit à Monseigneur l'intendant. Et le 1er janvier suivant, 1667, au moment où l'Assemblée des notables se dispose à procéder à l'élection consulaire qui avait été reportée et à y procéder suivant les coutumes, on donne à nouveau connaissance d'une nouvelle lettre de Monseigneur l'intendant qui présente une nouvelle exigence, toujours dans des termes très polis. Désormais, décide l'intendant, l'élection consulaire aura lieu le 1er janvier comme il a été décidé, ce sera toujours les ans comme ça, mais le nombre de consuls sera réduit à 4. Et pour finir, il donne le nom des 4 consuls qu'il a choisis, que le pouvoir a choisi. Ce sont noble Barthélemy de Florac, Prat-Bernou notaire, Para apothicaire et Joseph Bardon avocat. Et les 4 sont élus. parmi eux aucun vrai marchand, aucun artisan, aucun paysan. C'est bien la fin de la démocratie communale saint-antoninoise. Quelques années plus tard, l'intendant, à l'occasion de l'élection consulaire, décidera qu'à l'avenir, les consuls qui sont élus pour un an, comme c'était la coutume, le seront pour 2 ans, et qu'ils ne seront renouvelables seulement que 2 chaque année. Autrement dit, sur les 4, n'est-ce pas, on n'en élira que 2 qui seront maintenus en place pendant 2 ans et qui iront d'un poste à l'autre. C'est-à-dire que ceux qui seront élus au deuxième poste de consul passeront l'année suivante premier. Autrement dit, c'est le maintien de la permanence de l'administration communale en toute démocratie. Enfin, et c'est le comble, en 1692, par décision royale, sera créé l'office de maire perpétuel. C'est une charge vénale, c'est-à-dire que l'on pouvait acheter, et c'est un bourgeois, Monsieur Abel Berry, nommé à cette occasion conseiller du roi, qui sera le premier maire de notre ville. Il avait acquis cette charge pour 4 000 livres et recevait un traitement annuel représentant les intérêts de cette somme.
Le mandat des responsables locaux a tendance à s'allonger. C'est bien sûr au détriment de la démocratie.
Oui.
Mais ces hommes que l'on maintient en place de plus en plus longtemps, on peut penser qu'ils deviennent pour la ville de plus en plus importants. Est-ce que c'est au détriment du pouvoir royal ?
Ah, c'est pas du tout au détriment du pouvoir royal. Et la preuve, c'est que, justement, peu à peu, alors qu'il subsistait encore des postes électifs, d'autres fonctions municipales seront transformées en offices royaux, c'est-à-dire en charges qu'il faudra acheter et sur lesquelles on sera nommé à vie. Ce seront le poste de procureur du roi, de greffier de justice, ce qui, après tout, encore, on pourrait dire, c'est normal. Mais le comble, on décide aussi que le poste de secrétaire des consuls, de tabellion des consuls, sera un office que l'on devra acheter. Sans parler des gardes jurés qui surveillent la fabrication des draps et des contrôleurs divers. Alors, par un réflexe d'autodéfense, les consuls décideront de racheter ces charges pour les garder disponibles pour les gens qu'ils voudront y mettre. Ils décideront de racheter ces charges aux bénéficiaires et de conserver un semblant d'indépendance. Mais alors Louis XIV, le grand roi, n'hésitera pas à l'occasion, quand il aura besoin d'argent, après avoir consenti ainsi au rachat de certaines de ces charges, à les reprendre et à en créer de nouvelles. Ainsi se constituera sous nos yeux cette société d'ancien régime, avec cette classe de privilégiés dont l'insupportable arrogance, les abus de pouvoir et les excès justifieront un siècle plus tard l'explosion du mouvement révolutionnaire. Le peuple, lui, l'immense majorité du peuple travailleur, n'apparaît plus désormais dans nos documents d'archives. Pourtant, il souffre. Il souffre de l'injustice sociale. Il souffre de cette politique de grandeur qui l'accable d'impôts. Et dans chaque procès-verbal des délibérations des consuls, ou presque, il est fait mention de la misère qui frappe nos populations. Misère aggravée par le passage incessant et le logement obligé des soldats, des innombrables régiments. Misère aggravée par des fléaux répétés. La peste en 1651, de grandes inondations catastrophiques en 1689 et 1696, qui accompagnent la disette de 1693 et 1694. Et la communauté n'arrive plus à équilibrer ses budgets, n'arrive plus surtout à rembourser les emprunts déjà anciens. On emprunte tous les ans pour rembourser des emprunts qu'on ne rembourse pas. On emprunte tous les ans pour payer la taille qu'on ne peut pas lever à cause de la misère. Il s'ensuit des procès interminables et coûteux. En 1683, la communauté est condamnée pour n'avoir pas encore remboursé au comte d'Orval, Sully, un emprunt contracté en 1622.
C'est étrange, monsieur Julien, cet emprunt à Sully.
Oui, eh bien, Sully, on le sait, était un ministre de Henri IV. Et Sully était dans notre région pour une raison bien simple, ou du moins son fils, parce qu'il était titulaire de la baronnie de Caussade. Caussade n'était pas une ville indépendante comme nous, c'était une baronnie qui avait été cédée à la famille Sully. Voilà pourquoi Sully est dans la région. Mais le peuple, lui, connaît bien Sully pour l'emprunt qu'il lui doit, mais il souffre et il ne dit rien. Ailleurs, dans d'autres régions, il s'est révolté contre l'injustice, les abus, la misère. Ainsi, en 1643, à Villefranche, les croquants du Rouergue, qui s'emparent de la ville au cours d'une véritable insurrection populaire. Mais ici, rien ne bouge, et cela est bien symptomatique. Personne ne se révolte. Et cette tranquillité, cette paix, nouveau, cet arrêt du Conseil d'État du roi du 18 juin 1643, qui décide le transfert de la sénéchaussée de Villefranche, ville rebelle, dans notre ville. C'était là la récompense de notre soumission totale. Mais les conseillers au sénéchal, les procureurs, les autres officiers du Chénessal ne manifestent aucun empressement à venir s'installer dans cette petite ville sans éclat. L'injonction que leur fait l'intendant, la Terrière, le 20 juillet 1643, aussi comminatoire soit-elle, ne les décide pas. Ils font la sourde oreille. Ici, on avait pourtant fait tout le nécessaire pour bien les recevoir. On avait décidé que la salle du conseil de ville, celle qui est au premier étage du musée actuel, serait affectée au sénéchal, et que pour pouvoir donner un siège décent au sénéchal, on y installerait dans cette salle la chaire du juge royal que l'on transférerait de l'auditoire de la tour du Bioc. On avait balayé, nettoyé, tout était en ordre. Mais entre-temps, l'insurrection sera vaincue des croquants de Villefranche. Et le 2 octobre, leur chef, Petit, qui était de Montpezat, tout proche, et le nommé La Paille, ou plutôt surnommé La Paille, furent rompus vifs. Fini l'insurrection des croquants. Fini aussi la sénéchaussée à Saint-Antonin. Et le peuple, notre peuple, souffrira encore. La grande majorité de ce peuple, les deux tiers, souffrira encore plus sans doute de la constante agression que mène contre ses convictions religieuses, aussi bien les dignitaires de l'Église catholique à laquelle la contre-réforme vient de rendre ardeur et puissance pour combattre l'inexpugnable hérésie protestante, que l'autorité royale qui, insidieusement, par des mesures décisives, prépare cette sinistre mesure que l'histoire appelle la révocation de l'édit de Nantes.
Monsieur Julien, le XVIIe siècle, c'est Versailles. Et c'est aussi une période bien triste pour le petit peuple de Saint-Antonin.
Les historiens, vous le savez bien, ont voulu voir dans le XVIIe siècle, à cause de Versailles et d'autres choses, le grand siècle. Et certains, encore de nos jours, même parmi les plus humbles, admire la politique de grandeur de Louis XIV, ce grand roi qui a fait la France avec un grand F. Mais à quel prix? Au prix du sort pitoyable fait aux humbles gens que la Bruyère a ainsi dépeint. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Triste tableau, n'est-ce pas? Et l'on s'étonne que les privilégiés de cette époque n'aient pas tous été mordus de ce remords qu'exprime aussi la Bruyère. Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères.